Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Billy Ivan Lutumba.
Après 34 ans d'interruption, le port de Dilolo en province de Lualaba est à nouveau relié à celui de Lobito en Angola depuis ce lundi. Une bonne bouffée d'oxygène pour l'économie de la RDC. Des morts ce matin dans le territoire de Dekessé en province du Kassai. Un conflit opposant deux familles à la suite d'une accusation de sorcellerie est à l'origine de ces trois personnes tuées, nous dira dans le corps de ce journal un notable du coin. Notre invité de ce soir, Al Kitenge, membre de la structure Makutano, s'entretient avec Radio Kapi sur la rencontre demain avec Joseph Kabila et avec les opérateurs miniers. Ce sera avant notre dossier qui parle des malentendants de la ville de Kisangani. Ces principales articulations de cette édition de ce soir vous sont développées sous peu avec bien d'autres nouvelles du pays. Excellente condition d'écoute à tous et à tous. Madame, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Ce journal s'ouvre avec l'économie. Reprise du trafic ferroviaire entre la RDC et l'Angola, elle est effective depuis ce lundi. Ce réseau va relier le port de Dilolo dans le Lualaba et celui de Lobito en Angola. Ce trafic, interrompu depuis 34 ans, va permettre le transport des minerais et autres marchandises produits dans le Grand Katanga. À en croire le directeur du cabinet du chef de l'État présent à la cérémonie de reprise, ce trafic ferroviaire présente un grand enjeu économique pour la RDC. Naomi Mwilanya a été joint au téléphone par Mimi Ngumba Mulongo.
Je pense que la signification exacte et importante de la cérémonie d'aujourd'hui est liée à l'enjeu économique de cette voie d'évacuation. Les miniers ont tout à gagner, particulièrement à partir du moment où ils pourront dorénavant évacuer leurs produits par la voie du port de Lobito et gagner en temps de par la réduction de la distance.
Vous rassurez que cette reprise de trafic ne va pas s'interrompre après quelques temps au regard des difficultés auxquelles la SNCC est confrontée?
Je ne pense pas, parce qu'au moment où je vous parle, il y a déjà un accord qui est en voie d'être signé entre la SNCC et un investisseur qui lui va aider maintenant à aborder la phase 2, qui est la phase de la modernisation de la voie. Donc il faut plutôt être optimiste. Les conditions sont plutôt réunies pour attirer davantage de ces investissements, n'est-ce pas?
Économie encore. Dans le cadre de la protection de l'industrie locale, Jean-Lucien Boussard renouvelle l'interdiction d'importation de certains produits vivriers manufacturés. Les arrêtés du ministre d'État ont été rendus publics ce lundi à Kinshasa. Parmi les produits concernés, le ciment gris, le sucre brun, la barre de fer, la bière et les boissons gazeuses. Pour le ministre d'État, cette mesure est une mise en œuvre de la politique du gouvernement qui vise à rendre efficace et dynamique le secteur productif. Ainsi, il lance un appel aux opérateurs économiques afin d'investir dans différents secteur en vue de répondre favorablement à la demande nationale, car, affirme-t-il, le pays a la capacité de répondre aux besoins nationaux. Le ministre d'État Jean-Lucien Boussa est au micro de Mimi Ngumba Mulongo.
Avons-nous ces potentiels, oui ou non? Nous avons ces potentiels. Avons-nous des industries dans ces branches d'activité concernées qui existent, oui ou non? Les industries dans ces branches d'activité existent. Ont-elles la capacité de pouvoir couvrir la demande nationale, oui ou non? Et que oui. Est-ce que le secteur des ciments, le secteur des sucres, ces industries-là ont-elles la capacité de couvrir les besoins de la partie ouest de la République démocratique du Congo? S'agissant du ciment, oui. Nous avons donc dans le pays les capacités productives qui peuvent nous permettre de faire face à la demande nationale. Mais en même temps, la partie est du pays, où on n'a pas encore des cimenteries, où on n'a pas encore des sucrières à l'époque, il y avait Kidiba, mais nous sommes capables, les opérateurs économiques, au regard de la demande solvable, disponible, exprimée aux millions de consommateurs, les industries trouvent là un marché potentiel qu'ils doivent capter pour pouvoir finalement réaliser de bénéfices. Appel est fait aux opérateurs économiques privés pour investir dans les secteurs.
En Ituri, les activités paralysées ce lundi au centre-ville de Bunia, c'est suite à l'appel des communautés Ema, Mambisa, Endo, Okebo du territoire des Djougou, appuyé par un groupe des cadres politiques de l'Ituri. Ils décrètent ainsi deux jours de deuil suite au massacre du week-end dernier à Mazé dans le territoire des Djougou. Martial Kiza a fait la ronde de la ville de Bunia, suivait son reportage. reportage.
Du rond-point Fina au pont Locorto, principal artère qui traverse le centre-ville, boutiques, magasins, banques et autres stations-service sont fermées. Même constat au marché central de Bounia où les étalages sont vides. Plusieurs écoles n'ont pas fonctionné normalement car certains parents ont tout simplement gardé leurs enfants à la maison par prudence. La circulation est timide sur les grandes artères de la ville. Seuls quelques véhicules des particuliers et quelques taxis motos sont visibles. Même le bureau de plusieurs services publics situés dans l'enceinte du complexe administratif TP n'ont pas ouvert leurs portes. Les organisateurs de ces deux jours de deuil disent que leur action vise à interpeller les autorités pour qu'elles mettent fin à ces cycles de massacres et incendies des maisons. Cette grève crée déjà la spéculation sur les marchés. Un litre d'essence se vend à la sauvette à 3000 francs au lieu de 1500 francs. Bounia, Martial Kiza Biamungu, Radio Okapi.
Dans l'actualité aussi, cette rencontre est prévue demain mardi entre le chef de l'État et les opérateurs miniers. C'est une opportunité pour Joseph Kabila de montrer qu'il est le garant de la nation. Il ne devrait donc pas céder aux pressions que les miniers exercent sur lui. C'est ce que pense le membre du réseau Makutano, un regroupement d'opérateurs économiques qui milite en faveur d'un modèle de business congolais. Al Kitenge, membre de ce regroupement, le dit au micro de Daniel Tambizoni.
Demain, il ne s'agit pas d'un geste politique. Il s'agit d'un geste d'État. Le chef de l'État doit rester droit dans ses bottes, assumer la responsabilité du chef de l'État, garant de la nation, responsable du bien-être et de la dignité des citoyens congolais, responsable de la gestion équitable des ressources qui nous appartiennent à nous tous. Il est demain face aux Congolais et ne pourra poser que des gestes qui lui donnent l'obligation de se justifier auprès des citoyens. Et donc, la seule grande marge de manœuvre, c'est de rester élégant et d'expliquer aux miniers que les institutions de l'État sont bien au-delà des personnes. Aujourd'hui, et c'est ça la démarche des miniers, c'est d'essayer de faire pression sur lui en tant qu'individu, essayer de l'isoler des institutions. Ce n'est ni sérieux, ni crédible de la part de ces opérateurs économiques, mais encore une fois, ça donne simplement une chance de plus au chef de l'État de démontrer qu'il connaît ses missions, qu'il a le devoir de faire respecter la loi congolaise et qu'il défend les intérêts du peuple congolais et de la nation congolaise.
La sécurité, il en est aussi question dans ce journal. Situation confuse ce matin à décaisser dans la province du Kassai. Trois personnes, dont un policier, ont été tuées dans un affrontement qui a opposé deux familles suite à un conflit lié à la sorcellerie. Une partie au conflit a attaqué l'autre par des armes calibre 12 et des machettes, occasionnant ainsi deux morts dans le camp adverse, parmi lesquels un ancien administrateur du territoire et son frère qui travaille à Caritas Congo Développement. La famille des victimes, révoltée, a déchargé sa colère sur la police venue rétablir l'ordre public. Un policier a été également tué par jet de pierre. On écoute les explications de maître Fabrice Ndiakolo, notable de Kessé, deux heures juste après l'événement, au téléphone de Michel Kifindangoy.
Dans le territoire de Dekessé, il y a une confusion terrible semée par la famille Imbombo, qui s'est fait accompagner des armes à feu de marque calibre 12 ce matin, qui a tiré sur Monsieur Elela, l'ancien administrateur de territoire adjoint chargé de l'Ecofin, et qui a réussi au même moment sur son frère Belozar Bedi, de la Caritas Développement Dekessé. Après, lorsque la police et les militaires sont venus, un policier aussi a été caillassé par la famille des deux victimes, et il est mort sous les coups. Donc nous avons trois cas de décès. Nous encourageons les éléments de la sécurité à remettre la paix et la sécurité immédiate. C'est pour cela que nous avons tenu, en attendant les enquêtes inhérentes pour déterminer les responsabilités de ceux qui ont tiré et ceux qui ont utilisé les armes à feu sur les victimes, et que la justice fasse son travail.
Dans la même région, au Kassai central cette fois-ci, plus de 10 maisons incendiées, des blessés et d'importants dégâts matériels. C'est le bilan des échauffourées provoquées hier dimanche dans la cité de Benalika, à près de 130 km au nord-ouest de Kananga. Des sources concordantes locales pointent du doigt un militaire en congé médical comme auteur de cette situation. L'administrateur de Demba appelle la population à ne point mêler les militaires dans des dossiers de droit commun. D'autres détails avec André Kambalam Janaï.
D'après quelques témoins, tout est parti de la mort le mois dernier d'un directeur d'école primaire. Son frère, un militaire arrivé sur place la semaine passée, au motif de congé médical, aurait pris l'option de le venger. Dimanche, ayant pris un verre de trop, il aurait d'abord passé à tabac la femme du défunt. En compagnie de membres de sa famille, il a ensuite mis le feu sur 11 maisons. Les propriétaires apeurés n'ont pas pu sauver leurs biens. Dans ces échauffourées, trois personnes ont été blessées. L'information est confirmée par l'administrateur de Demba. Toutefois, pour Joachim Likaka, le militaire en question se serait pris à la famille d'un trafiquant du Dama qu'il accuse d'être à la base de la mort du directeur. Il a blessé la femme de cet homme d'affaires et a mis du feu sur plusieurs maisons. L'autorité territoriale, qui ne précise pas le nombre de blessés, indique que ce militaire n'est pas à son premier forfait. La semaine passée, il avait confisqué la moto et l'appareil cellulaire d'un jeune. Ces biens ont été restitués à leur propriétaire suite à l'intervention des forces de l'ordre. L'incriminé a pris fuite et la situation est sous contrôle des forces de l'ordre. L'AT de Demba demande enfin à la population d'épargner les militaires des dossiers de droit commun pour éviter les règlements de comptes. De Kananga, André Kambala, Radio Okapi.
Manifestation ce lundi à Mbandaka des jeunes de la Ligue du PPRD, Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie. Ces militants ont barricadé la route et brûlé des pneus devant l'Institut supérieur de développement rural, ISDR. C'est en réaction à la décision du ministre de l'ESU qui aurait révoqué deux autorités académiques en fonction à l'ISDR et à l'ISP Mbandaka. Ces deux personnes se trouvent être des cadres de ce parti politique. La police est intervenue et a dispersé cette manifestation. Reportage pour le Richard Malingela.
La révocation de Mme Philomène Nyabakele, jusque-là secrétaire générale administratif de l'ISDR, et de M. Blaise Mokekola, administrateur du budget à l'ISP Mbandaka, tous deux cadres du PPRD Équateur, a été annoncée par voie de presse, a indiqué Bill Bokinda, l'un des manifestants. Cette décision du ministre de l'ESU, a-t-il dit, n'a aucun fondement, sinon le remplacement sélectif contre ces cadres et candidats potentiels du PPRD en vue de fragiliser ce parti lors des prochaines élections auxquelles il se prépare, a-t-il ajouté. Voilà pourquoi Bill Bokinda demande alors au ministre de tutelle de revenir sur sa décision et au chef de l'État de s'impliquer personnellement pour l'aboutissement heureux de ces dossiers. Mais la police urbaine est allée vite disperser les manifestants à l'ISDR. C'est par souci de ne pas troubler l'ordre public en cette période de turbulence, a indiqué le commissaire urbain de la PNC Mbandaka. Contacter le directeur de l'ISP Mbandaka qualifie ces révocations de spéculation faute des documents écrits du ministère. Il exhorte simplement au calme en cette période de demi-session. Mbandaka Porcha Malingue, la radio Okapi.
Nous allons terminer cette page nationale dans le Grand Katanga. Arrivé ce dimanche à Lubumbashi, des six éléments Maïmaï d'autodéfense populaire. Ces éléments font partie de la cinquième vague des redditions enregistrées ces trois dernières semaines à Pweto, territoire à plus de 400 km de Lubumbashi. Le ministre provincial de l'Intérieur qui les accompagne indique qu'ils sont à Lubumbashi pour le processus de démobilisation. D'autres détails avec Noé Kabena.
À ce jour, ils sont seulement 6 à Lubumbashi parce que les moyens logistiques font défaut, indique le ministre provincial de l'Intérieur. Depuis le début des redditions, 123 flèches ont déjà été récupérées. Cette reddition est la cinquième après celle enregistrée dans les localités de Luanza, Kibowa, Kamabange et Luantete. Et pourtant, la population n'est pas encore assurée, souligne pour sa part l'ONG Libertas. Ceux qui se rendent n'ont pas de choix car ils sont coincés et se retrouvent vulnérables face aux autres groupes armés tels les Maïmaï Katakatanga et les FARDC. Le ministre provincial de l'Intérieur, pour sa part, rassure. Malulu Kalungwe indique que ces multiples redditions sont les fruits de la sensibilisation menée conjointement avec les autorités de la province et même certains anciens seigneurs de guerre pour pacifier le territoire de Pweto. Pour lui, à l'heure actuelle, près de 19 villages ont retrouvé la quiétude et les populations ont regagné leurs maisons. Notons que les 6 Maïmaï déjà arrivés à Lubumbashi vont passer par le centre d'orientation pour leur démobilisation. De Lubumbashi, Noé Kabena, Radio Okapi.
Actualité Afrique Monde.
Et les nouvelles à l'international partent des récentes attaques au Burkina Faso. Le président du Niger, président en exercice du G5 Sahel, Mamadou Issoufou, a réaffirmé ce lundi la solidité de l'alliance des pays sahéliens avec la France contre le terrorisme. C'était au cours d'une visite à Ouagadougou, trois jours après les attaques djihadistes qui ont frappé la capitale burkinabé. Le G5 Sahel est une alliance de 5 pays, Niger, Tchad, Mauritanie, Burkina Faso et Mali, qui est en train de mettre en place une force militaire régionale pour combattre les groupes djihadistes qui sévissent dans la zone, avec l'appui de plusieurs pays occidentaux, notamment la France, qui a mis en place sa propre force anti-djihadiste Barkhane. Le président nigérien et le président togolais Faure Gnassingbé ont effectué une courte visite de moins de 3 heures à Ouagadougou. Une vidéo choc diffusée par le groupe État islamique et montrant plusieurs soldats américains tués dans une embuscade au Niger souligne la perversion de ce groupe djihadiste, a estimé aujourd'hui lundi le Pentagone. Le ministère américain de la Défense est informé de la publication des photos et d'une vidéo de propagande sur l'attaque terroriste du 4 octobre au Niger, a indiqué le Pentagone dans un communiqué. Cette compilation d'images tirées des caméras installées sur les casques des soldats américains, des séquences filmées par les djihadistes eux-mêmes, dure 9 minutes. Les soldats avaient été attaqués par un groupe d'une cinquantaine de combattants affiliés à l'EI équipés d'armes automatiques, de grenades et de mitraillettes. Au sein des champs islamistes, la vidéo montre les soldats américains sous le feu des assaillants. On les voit tomber un à un et on voit ensuite, filmé par les djihadistes, les corps ensanglantés d'au moins deux Américains. L'un d'eux est achevé sous l'œil de la caméra. En Belgique, 8 personnes ont été arrêtées dimanche matin à Molenbeek, près de Bruxelles, après une série de perquisitions ordonnées par un juge bruxellois chargé d'un dossier terroriste. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui lundi le parquet fédéral belge. Et nous terminons par l'Irak qui a ordonné la confiscation des biens de l'ancien dictateur Saddam Hussein et des 4257 dignitaires de son régime déchus lors de l'invasion amenée par les États-Unis en 2003 ainsi que de ceux de leurs proches. Décision contenue dans un communiqué officiel publié ce lundi. La liste des dignitaires a été établie par l'instance irakienne chargée de traquer les anciens membres du parti Baas de Saddam Hussein. Elle inclut leurs épouses, leurs enfants et petits-enfants ainsi que leurs parents au second degré. Le nom de Saddam Hussein apparaît en premier sur la liste.